www.radioscoop.com. Le débat du jour, Pierre Pinto.
Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous le savez, la convention démocrate bat son plein à Denver dans le Colorado. 4 jours de show politique à l'issue desquels Barack Obama sera officiellement et solennellement investi candidat du parti pour la présidentielle du 4 novembre. Dans les sondages, le sénateur de l'Illinois est en tête d'une légère avance sur son concurrent républicain John McCain. Obama est jeune, il a 47 ans, il est sénateur depuis 2002 et n'a de cesse de faire oublier cette fraîcheur ou cette inexpérience, comme on veut. Pour ce faire, il cultive l'émotion comme vecteur d'idées et de valeurs. Rapidement, on l'a comparé à un autre jeune candidat parvenu, lui, à la Maison-Blanche l'année précédant sa naissance. Obama est-il le nouveau Kennedy? Auquel des deux frères, d'ailleurs, John ou Bobby, ressemble-t-il le plus? D'où vient cette image? Est-ce que la comparaison sert Obama ou le dessert? Pour en débattre avec nous, David Martin Castelnau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, éditorialiste sur le site causeur.fr et grand reporter au magazine L'Optimum. L'Optimum qui, d'ailleurs, a fait sa une en avril sur Obama, le Kennedy noir, je crois. Et puis, Philippe Golub, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en internationales à Paris 8 et à l'Université américaine de Paris. Alors d'abord, David Martin Castelnau, il est jeune, beau, élégant, charismatique.
Merci.
Je parlais d'Obama, c'est ça qui fait penser à John Kennedy?
Oui, effectivement, il n'y a pas que cela. Il y a aussi un style affecté, délibéré, sa façon de s'habiller, qui est très sobre, un peu néo-50s, comme vous le comparez à la classe politique de Washington, qui a des cravates horribles et des costumes mal coupés. Très sobre, donc bleu marine, noir. Cette raideur un peu qu'il imite ou qui le fait ressembler à Kennedy, sa coupe, sa façon de parler, il y a un style aussi, pas seulement dans les slogans, dans les vêtements et dans la façon de se mouvoir. Je crois que la recherche de mimétisme est délibérée chez lui.
C'est voulu donc?
Je crois que c'est voulu parce que il permet d'illustrer une autre partie de l'offre d'Obama qui est la suivante. Obama se présente comme le candidat du changement, du nouveau, de la nouveauté, le candidat qui lève beaucoup d'argent sur Internet. Mais le message subliminal qu'il fait passer, à mon avis, à l'Amérique, c'est celle de la nostalgie, d'une certaine manière. Du retour à une Amérique d'avant la drogue, d'avant l'obésité, d'avant le Vietnam. Et cette Amérique-là, assez proprette, cette Amérique de Happy Days, vous connaissez la série, Les Jours Heureux, c'était l'Amérique de Kennedy. Et je crois que fondamentalement, c'est le paradoxe assez puissant et séduisant chez Obama, il est novateur et frénétiquement nostalgique. Et c'est pour ça que je crois qu'il travaille dans les slogans comme dans l'apparence, le mimétisme avec Kennedy.
Philippe Golub, c'est ça qui marche, c'est ça qui fait que Obama suscite un tel enthousiasme?
Obama représente, alors la comparaison avec Kennedy peut se faire à plusieurs niveaux. Obama représente un changement générationnel, bien évidemment, comme Kennedy a représenté en son temps un changement générationnel. Kennedy arrive au pouvoir, avec difficulté d'ailleurs. Les élections de 1960 ont été gagnées par 100 000 voix, 49-7 contre 49-6. Kennedy représentait un changement de génération par rapport à l'ère précédente des grands, à la fois des grands dirigeants qui avaient mené les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi une société qui était vieille, vieillissante, sclérosée du point de vue de la forme dont la société était organisée. Et Obama vient aujourd'hui, effectivement, incarner un changement générationnel important, à la fois sur le plan de l'électorat, mais aussi du point de vue du changement démographique américain. Mais il faut ajouter, il faut distinguer les périodes. Kennedy arrive juste avant les grands traumatismes des années 60 et 70 qui vont déchirer les États-Unis en deux, fracturer la société américaine, produire les plus grands mouvements sociaux de son histoire d'après-guerre. Obama, lui, arrive, donc il précède cette ère. Et Kennedy, la mort de Kennedy, tragique d'ailleurs, rend sa présidence incomplète. Et d'où le mythe Kennedy d'ailleurs, d'où le mythe Kennedy. Tandis que Obama, lui, intervient au moment même d'une crise multiforme, multidimensionnelle de la puissance américaine et de l'économie et de la société américaine. Et donc on est dans une configuration quand même assez différente.
Alors, David Martin Castelnau, qui dit John Kennedy, dit Jackie. La comparaison entre la femme d'Obama, Michelle, et Jackie Kennedy, elle existe aussi?
Oui, alors là, elle existe quant au tailleur, parce que je pense qu'en termes de carrure, Non. Jackie était quelqu'un d'intelligent, clairement, mais Michelle Obama est une self-made woman, clairement une femme de l'Amérique d'après, qui ne reste plus à la maison, qui a fait de bonnes études, qui s'est prise en main, qui a même certainement, d'une certaine manière, prise en main aussi son mari. Elle ressemble plus à Hillary Clinton, à mon avis, qu'à Jackie Kennedy.
Bon, de par son implication dans la campagne, on l'a vu
hier
soir.
De par sa carrure, son charisme. Elle est même sans doute plus charismatique que Hillary Clinton. Mais c'est une femme de tête, d'énergie. C'est pas une jolie Tanagra qu'on laisse à la maison. Je voudrais juste dire un point sur les ressemblances réelles dont vous avez parlé ou recherchées entre Kennedy. Moi, je pense qu'il y a un désir de créer l'assimilation dans l'esprit des Américains, parce que c'est une période de frustration. Le rêve n'a pas été vécu jusqu'au bout, l'aventure
Kennedy.
Il est
là pour finir l'histoire, en fait.
D'une certaine manière. Mais je vais vous donner un exemple. Ce matin, on a appris que 4 individus avaient cherché ou envisagé, peut-être, on n'en est pas encore certain, peut-être de tuer Obama. Hein. Donc là encore, ça rappelle Kennedy. Bon, ces 4 individus sont des pieds nickelés. L'un se baladait avec Mein Kampf et une croix gammée de la drogue, l'autre avec un pistolet bouché, et presque, ils avaient presque un panneau sur le front, arrêtez-nous. Donc je ne suis pas certain que ces individus, ces pieds nickelés, je ne sais pas si vous avez vu leur...
Ils avaient une chance d'arriver à leur...
Vous avez vu leur portrait, je veux dire, ce sont des déclassés, ce sont des paumés. Sauf que, à partir d'un communiqué très prudent de la police Denver, l'équipe d'Obama a tout de suite relié, c'est elle qui a relié, en disant qu'un préparatif d'attentat, qui est une probabilité mais pas une certitude, avait été déjoué. Et là, de nouveau, comme, souvenez-vous, le psychodrame au moment où Hillary Clinton avait fait une gaffe sur la possibilité de l'assassinat d'Obama, là encore, les équipes d'Obama avaient poussé à la faute. Je vous rappelle que elles avaient monté en épingle ce fait incroyable, que c'était le premier candidat non désigné qui avait une garde rapprochée, une sécurité payée par l'État, équivalente à un président en exercice, sous prétexte qu'il est métisse. Moi, je pense qu'il y a...
Tous les candidats à la présidence ont...
Avant sa désignation.
Tous sont entourés avant la désignation. Les candidats probables sont entourés par le Secret Service américain.
Oui, mais la garde qu'il avait, et qui... Bon, alors peut-être l'information est fausse, mais était équivalente à celle d'un président en exercice, d'après...
Est-ce que la vie d'Obama n'est pas plus en danger que celle de McCain?
En termes de longévité, non, clairement.
Mais est-ce qu'il est plus menacé directement par...
Il reste aux États-Unis, bien sûr, des cellules de fanatiques, d'extrémistes, d'extrême droite, qui parcourent la vie politique américaine. Vous vous souvenez des attentats de Oklahoma sous Bill Clinton ou d'autres événements de ce genre. C'est-à-dire, il existe effectivement dans les milieux xénophobes, extrémistes de droite, des racistes qui voudraient certainement menacer Obama. Je pense que la probabilité d'un attentat est très faible pour la très simple raison que les institutions de sécurité nationale des États-Unis, que ce soit les institutions de sécurité intérieure FBI ou extérieure CIA, aujourd'hui estiment qu'un changement de politique, eux-mêmes estiment qu'un changement de politique est nécessaire et qui feront le nécessaire pour protéger ce candidat.
On a vu hier soir Ted Kennedy également apporter son soutien à Barack Obama. Ted Kennedy, c'est le dernier des 3 frères. Il est condamné par un cancer et a promis d'être là pour voir Barack Obama entrer à la Maison Blanche. Est-ce qu'on est là dans la stratégie de l'émotion encore, ou c'était un véritable passage de témoin comme le nouveau de la dynastie?
Ben, les deux, c'est-à-dire que le rappel constant de Kennedy, me semble-t-il, est une stratégie qui n'est pas nécessairement totalement payante, dans le sens que Edward Kennedy est une figure importante de ce qu'on pourrait appeler généralement la partie progressiste du Parti démocrate, non pas un centriste, mais un véritable progressiste sur le plan social, économique, en politique étrangère, n'est-ce pas? C'est marqué fortement dans ce sens. C'est pas exactement la gauche dans le sens français, mais c'est quand même progressiste.
Pour les
vue sur le plan politique américain. Et donc c'est un homme important et c'est une figure importante symboliquement importante. Mais ce que je voulais dire par rapport à Kennedy, c'est un mythe. Hein, on est devant le mythe Kennedy qui n'était avant son élection présidentielle, qui avait été très timide par rapport aux droits civiques, qui avait été un très fort défenseur des intérêts établis, qui avait refusé de dénoncer McCarthy, le macartisme, parce que son père était ami de McCarthy, n'est-ce pas? Ce Kennedy là, opportuniste, arrivé à la présidence, changera de politique. On ne connaît pas vraiment ses convictions intérieures. C'est le même Kennedy qui poussera les États-Unis dans la guerre du Vietnam, n'est-ce pas, qui initiera la guerre du Vietnam, mais c'est le même Kennedy qui lancera la mésaventure stratégique du Bay of Pigs, de la baie des cochons, qui rejaillira sur les États-Unis. Obama devrait, à part le mythe Kennedy, c'est une chose, Obama incarne un changement, il va falloir qu'il concrétise ce changement en faisant plus qu'un appel à l'émotion et au retour du mythe. Il faudra qu'il aille plus loin. La société américaine est dans une crise profonde, il faudra aller au-delà des clichés et des mythes.
On a reproché l'inexpérience à JFK autant qu'on le fait à Obama.
Oui, vous savez, il y a une loi en histoire, un axiome qui dit qu'un grand personnage historique, c'est la rencontre entre un caractère et une période, un moment, donc on peut se révéler, il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 24 ou d'avoir usé ses fonds de culotte au Parlement. Je ne crois pas que quand vous êtes aspirant à diriger une république impériale comme les États-Unis, vous ayez besoin d'avoir une formation de particulièrement...
D'où le pragmatisme dont il se revendique.
Le caractère, la lucidité, le courage, effectivement. Mais je veux revenir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a deux choses qui sont amusantes et paradoxales dans l'utilisation du mythe Kennedy, dans l'espoir de le voir revivre. D'abord, c'est que on attend, puisqu'il le promet d'Obama, qu'il réconcilie l'Amérique avec le monde. L'Amérique est à peu près dans l'état avec le monde, dans ses relations où elle était dans les années 70. Il y a des bisbilles. Ça arrive dans l'histoire des États-Unis avec le reste de la planète, ça s'arrange un peu après. Mais effectivement, vous venez de le rappeler, Kennedy, c'est la déculottade de la baie des cochons à Cuba. C'est lui qui est à l'origine de la guerre du Vietnam. Qui est une faute à tout point de vue stratégique qui a été conduite de façon immorale et qui a cassé l'Amérique mentalement et qui l'a cassé dans l'imaginaire.
Comme Bush a cassé l'Amérique,
voilà, donc,
en Irak.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on attend donc d'Obama qui ressuscite Kennedy, qui lui-même finalement a fait des choses assez semblables à celles qu'on reproche aujourd'hui au Bush père et fils. La deuxième chose, c'est qu'on reproche à Kennedy, à Obama, de faire surtout des discours. Yes, we can, just do it.
Non, ça c'est, non, pas c'est quelqu'un d'autre.
Bon. Mais souvenez-vous que Kennedy, qui est une star parce qu'il était foudroyé, un peu à la James Dean, il reste aussi beaucoup pour ses discours. Je suis un Berlinois, nous irons sur la Lune.
Alors, quelles sont les nouvelles frontières d'Obama?
Non, ce que je veux dire par là, c'est simplement que l'exemple Kennedy, il est glamour, mais je ne sais pas s'il est forcément réconfortant pour les Américains.
Il n'y a pas de nouvelles frontières. Il y a des difficultés. Et Obama qui affirme qu'il sera un président post-partisan au-delà des clivages politiques, etc., se retrouvera très vite dans des configurations à la fois politiques, économiques et sociales extrêmement difficiles. Il n'y a pas de nouvelles frontières. Il y a la reconstruction à faire. Reconstruction pour lui, puisqu'il hérite nécessairement de la République impériale, reconstruction de la crédibilité américaine dans le monde et reconstruction de la société en interne.
David Martin Castelnau, le mot de la fin.
Ces deux nouvelles frontières, je pense que la première, c'est la possibilité effectivement de faire devenir les États-Unis colorblind, c'est-à-dire aveugle aux couleurs.
Ça ne crois pas du tout.
Moi, je pense qu'il y a une possibilité qui réussisse cette transmutation du plomb en or, c'est possible. Et la deuxième, vis-à-vis du reste de la planète, de prouver que les valeurs occidentales que nous prêchons, eh ben, on les applique en Occident, c'est-à-dire que c'est la méritocratie.
Merci beaucoup à tous les deux, à suivre un nouveau journal sur RFI.